straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. Impossible de commencer ce 167e épisode sans vous souhaiter une bonne et heureuse année. J'ai bien conscience du côté dérisoire de ces vœux. Le monde d'aujourd'hui semble devenu flou, incertain, se déliter. Le futur ne se limite plus qu'à demain. Après-demain, c'est de l'ordre de l'utopie. Reconnaissez qu'on a fait mieux en termes de perspective. Pendant des années, on a cru naïvement que la culture sauverait le monde. On vérifie facilement que ce n'est pas le cas. Ce n'est tellement pas le cas qu'elle ne fait plus partie des préoccupations budgétaires. La région Pays de la Loire est exemplaire pour cela. Nous, à Radio G, le payons lourdement, puisque nous sommes obligés de supprimer un emploi. Mais il n'y a pas d'alternative, il faut que quand même y croire, contre vents et marées, au risque de passer pour naïf, ou pire encore, gentiment, babacool. Revenons sur Terre pour ce premier rendez-vous de l'année 2026. C'est un retour à la maison Julien Gracq avec les résidentes et résidents du moment. Elles et ils sont venus dans le studio. Bienvenue à vous trois. Bonjour Élise Goldberg.
Bonjour Luc.
Bonjour Camille Coissy.
Bonjour.
Bonjour Martin Page.
Bonjour.
Et bonjour à toi Margot.
Bonjour.
Oui, il faut que tu rapproches le micro, que tu te rapproches, il faut que tu fasses quelque chose et que tu dises bonjour dans le micro.
Bonjour.
Bonjour Margot. Comment ça va à la maison Julien Gracq?
Ça va, comme un début d'année avec trois résidents qui se rencontrent.
Parle dans le micro.
Oui, pardon. Un début d'année qui, 2026, avec trois résidents qui partagent la maison pour commencer, puis des événements qui vont recommencer à partir du 23 janvier.
Eh bien, écoute, on en parle quand on fera la désannonce de l'émission. On va tout de suite commencer. Oui, parce que je vois, t'es un petit peu troublé. Tu joues avec ton smartphone, ce qui n'est vraiment pas bien en 2026. Il faut changer tout ça. On va commencer avec vous. Bonjour, rebonjour, Élise Goldberg.
Rebonjour.
Vous êtes l'autrice d'un premier roman. Tout le monde n'a pas la chance d'aimer La Carpe Farcie, paru chez Verdier. Pendant longtemps, professionnellement, vous avez été confrontée à l'écriture des autres. Vous êtes correctrice.
Oui.
Vous êtes détentrice du certificat Voltaire. Vous animez des ateliers d'écriture et vous avez participé à des ateliers d'écriture. Le pas du roman, vous le franchissez quand ?
Je le franchis quelques années avant 2023. Finalement, avant ce livre-là, j'avais pas tellement écrit, ou en tout cas rien de littéraire ou de narratif. C'était plus des articles, des petites choses comme ça, ou même un journal, mais c'était vraiment pour moi. Et en fait, ce qui m'a vraiment aidé à franchir le pas, c'est le master de création littéraire de Paris 8. Le fait même d'apprendre son existence déjà m'a porté, c'est-à-dire que je me suis dit que c'était un cadre qui m'aiderait, parce que la difficulté que j'avais, c'était de croire en ma capacité de mener un projet de longue haleine et de pouvoir en discuter avec d'autres personnes qui feraient la même chose que moi. J'avais besoin d'une communauté pour me porter et d'un cadre.
Alors, il faut qu'on éclaircisse un truc, parce que être détentrice du certificat Voltaire, ce qui est quand même assez impressionnant, mais en fait, il faut que vous disiez ce que c'est.
Oui, quand on connaît, c'est beaucoup moins impressionnant. C'est une forme de certificat pour les correcteurs. C'est comme c'est un peu le baccalauréat des correcteurs. J'exagère, mais c'est un examen qu'on passe et qui nous donne un certain niveau avec une note prouvant qu'on est capable de maîtriser certains points grammaticaux. Voilà, c'est surtout ça en fait. Donc ça n'a rien de très impressionnant.
Ah si, quand même. Si, si, quand même. Moi, ça m'a impressionné en tout cas. Votre roman, alors c'est une plongée jubilatoire dans la culture juive et son versant ashkénaz. C'est là d'où vous venez.
Oui, tout à fait, des deux côtés de ma famille. D'ailleurs, j'ai appris sur le tard que c'était mes grands-parents qui avaient présenté mes parents. Donc finalement, il n'y a pas tant de hasard que ça.
Là, on est vraiment dans la culture, là, dans la culture ashkénaze. Là, ça,
y a des marieurs, oui, un petit peu aussi. Oui, oui.
La forme de ce roman est particulière. Il vient d'où ce choix d'écrire par fragments?
Il s'est pas du tout imposé au départ. J'avais vraiment envie de partir de la cuisine ashkénaze qui est très présente dans ce livre-là. Ça, le point de départ, il est venu assez tôt. En revanche, j'étais partie sur un type de texte qui était une narration assez classique. Mais je me suis aperçue soit que j'étais pas douée pour ça, soit que c'était trop tôt, soit que ce texte-là précisément ne fonctionnait pas. En tout cas, à un moment, lors d'une discussion avec des amis qui écrivaient également, et une de ces personnes écrivait quelque chose qui n'était pas vraiment narratif, et en fait, ça m'a amené du côté du fragment. Mais je crois que le fait aussi de faire ce master... Après, je dis ça parce que ça a traversé, c'est venu à ce moment-là, mais lors de ce master, il y avait la cofondatrice du master, écrit aussi du fragment, et en fait, j'ai été confrontée à plein de types d'écriture à ce moment-là, que je connaissais peut-être déjà, mais auxquels j'aurais pas forcément prêté attention autrement. Et en fait, c'est de voir ce type d'écriture au moment où moi-même j'écrivais, qui m'a menée de ce côté-là.
Mais ce qui démarre, en tout cas l'envie, elle naît de la cuisine, elle naît du culinaire.
L'envie de départ, elle naît de creuser l'idée de la transmission entre générations et la question de la troisième génération après la Shoah, c'est-à-dire que moi j'avais le sentiment que peut-être je portais des choses qui étaient liées à cette histoire qu'avaient vécu mes grands-parents et peut-être même aussi des empêchements et j'avais envie de traiter ça. Et ce que je cherchais, c'était l'accroche ou le biais ou le fait de le raconter de manière un peu oblique. Et c'est ça que m'a permis le thème de la cuisine.
Alors, on peut parler effectivement d'oblique. Alors, il faut quand même commencer par là, quoi. La confection de la carpe farcie. Bon, à mes yeux, enfin, à la lecture, c'est pas très appétissant. Objectivement, pas très appétissant. Hein. Ça semble être grisâtre. La construction du truc, ça paraît très, très, très étrange. Bon, j'imagine que cette carpe, elle est la métaphore de quelque chose.
Oui, tout à fait. Après, moi, j'ai vraiment forcé le trait. C'est vrai que c'est une cuisine. Je pense que quand on est confronté à d'autres types de cuisine de nos jours, on a la possibilité de découvrir des cuisines de plein de pays différents, surtout pour quelqu'un qui, comme moi, vit à Paris. Et donc, la cuisine ashkénaze, elle part plutôt perdante. Elle est pas très jolie, de manière générale. Le goût, c'est quand même quelque chose... On considère que c'est un petit peu fade. Moment du Covid, il y a eu des blagues qui ont circulé sur les réseaux sociaux en disant « Ah, bah moi, j'ai eu le Covid, je sens plus les saveurs. Ah, mais non, mais c'est juste que tu manges de la cuisine ashkénaze, en fait. Oh. » Donc, beaucoup d'autodérision. Et moi, je me suis amusée aussi à forcer un petit peu le trait de ce côté-là. Et chemin faisant, j'ai oublié la question que tu me posais.
Non, je parlais de la métaphore de la carpe farcie.
Oui.
Mais c'est pas grave. Parler de côté un peu fade de la cuisine ashkénaze, quand on pense aux oignons crus, moi, ça me rappelle quelques expériences un peu douloureuses. Donc, je crois pas que ce soit très fade en réalité.
Les oignons peut-être pas, mais la cuisine, cette cuisine-là, c'est vrai qu'elle a une saveur très particulière. Et quand tu me posais la question de la métaphore, oui, c'est une métaphore. Et déjà, c'est vraiment la carpe farcie, c'est le plat emblématique. Il y a toujours un moment où on va parler de la carpe farcie quand on parle de cuisine ashkénaze. Et en même temps, c'est un plat qu'on ne fait plus, en fait, qu'on ne confectionne plus. C'est très long pour, au final, que les gens boudent leur assiette parfois ou même souvent. Et donc c'est un peu cette disparition-là qui en symbolise aussi d'autres. Et si on va un peu plus loin dans un peu le propos du livre, avec cette histoire d'une culture en miettes, en fait.
Alors, en vous lisant, on se rend compte combien on croit être familier de cette culture. Et moi, j'ai pensé que c'était à cause de Woody Allen, auquel d'ailleurs vous faites beaucoup référence. Mais vous nous en apprenez beaucoup plus, pourtant, dans un livre qui ne fait que 150 pages. Cette culture, en fait, vous nous en parlez, vous l'aimez, cette culture?
Oui, mais tu me poses la question avec une tonalité comme s'il y avait un doute, mais effectivement, il y a un tiraillement. Et c'est un peu ça, c'est un peu le fil directeur dans ce texte-là, c'est-à-dire de l'autodérision, notamment sur la cuisine, mais aussi sur d'autres aspects. Une histoire qui est lourde à porter, qui est empêchante, des comportements ou des injonctions héritées, je pense, de cette histoire qui sont empêchantes. Par exemple, je pense à l'idée qu'il faut pas il faut pas se prendre trop au sérieux, par exemple. Mais parfois, on a envie de se prendre au sérieux, donc il y a ce tiraillement là. Et en même temps, c'est une culture qui est familiale et pour laquelle j'ai de la tendresse. Donc il y a vraiment ces deux aspects.
Comme vous en avez parlé, il y a de l'humour. Moi, je pense à la séquence avec Mamie Goldé. Mmh. Vous pouvez nous dire en deux mots cette affaire de Mamie Goldé. C'est sur YouTube qu'on voit ça, je crois.
Tout à fait, oui. On tape sur Internet Mamie Goldé, on tombe sur ces vidéos de cette grand-mère qui son petit-fils a demandé de partager ses recettes de cuisine. Et donc, on la voit cuisiner. Et alors, ce qui est très savoureux et très appréciable pour des personnes comme moi qui ont eu des grand-mères qui parlaient yiddish, c'est qu'elle parle avec l'accent yiddish, un accent qu'on n'entend plus de nos jours. Mais en fait, donc, elle donne, par exemple, elle va cuisiner la recette dont je parle dans le livre, c'est le leiker, qui est un gâteau au miel qui doit monter et que ma grand-mère d'ailleurs faisait. Et donc, elle, on la voit en train de cuisiner. Alors, elle est habillée vraiment, elle s'est pas du tout apprêtée pour l'occasion. Elle cuisine sur un bout de plan de cuisine un peu à la one again, comme ça. Et elle le rate. Et donc, elle le rate et c'est peut-être son plus grand succès sur YouTube, c'est-à-dire tout le monde adore cette recette ratée.
Oui, parce que...
Et elle se démonte pas.
Elle se démonte pas, elle démoule le truc, ah ben c'est raté. Bon, ben c'est raté.
Voilà, pas de problème.
Alors, inévitablement, on est dans la culture ashkénaze, on est dans l'univers juif, dans la culture juive, et inévitablement, le point Godwin y surgit. On ne peut pas ne pas arriver, et c'est comme ça, au point Godwin, ce que vous évoquez à un moment donné. Alors, je recherche la page. J'espère que je l'ai sous les yeux. Oui. Et il n'avait rien à voir, tous ces tsourès qui me tourmente tête et viscères, et s'il avait bon dos, ce point Godwin, si ce n'était pas lui, ce mal de ventre, du pays et autres ennuis gâcheurs de vie. On dit que les carpes vivent très longtemps, c'est vrai, jusqu'à un certain point. Certaines peuvent atteindre 70 ans, les centenaires sont rares, on a peu de chances de retrouver dans son assiette une carpe née sous le nazisme. Inévitablement, on arrive à cet endroit-là, quoi.
Oui, après c'était de toute façon moi mon point centre, ce à quoi je voulais en arriver dans le texte, c'est-à-dire ce que ma famille avait traversé pendant la guerre et en se disant que certainement ça avait façonné beaucoup de choses aussi qui avaient été transmises. Et est-ce que tu veux que j'en parle davantage ou...
Ben, moi, je vais vous demander autre chose parce que j'ai envie que vous lisiez un passage. Ce passage, il est à cet endroit-là, page 136. Ça commence le dernier paragraphe, tout le paragraphe en bas de la page 136 parce que je pense que c'est là le cœur du livre.
C'est un récit sans chair dont ne subsisterait que la colonne, quelques arêtes. Dans la décision de mon grand-père de partir pour Bialystok, qu'est-ce qu'il a emporté? Qu'a-t-il vu sur place pour faire le choix d'y amener les siens? Comment ont-ils trouvé l'argent pour tous ces trains, ces déplacements? Ont-ils resquillé? Comment ces trajets se sont-ils déroulés? Comment trouvaient-ils de quoi manger? Qu'avaient-ils réussi à emporter et à conserver de ville en village, de Russie soviétique en Asie centrale? Combien de temps sont-ils restés à Bialystok à chaque fois? À Tcheliabinsk, dans la République des Komis, en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan, en Pologne après la guerre et en Ouzbékistan, où se trouvait-il précisément? Pourquoi le choix de telle ou telle ville? Où vivait-il à Bialystok quand le NKVD est venu les chercher pour les déporter? Dans quelle ville de Pologne sont-ils retournés après la guerre? Comment ont-ils entendu parler du camp de réfugiés de Fritzlar, de Waldenburg? Pourquoi Fritzlar, Waldenburg et pas Stuttgart, Landsberg ou l'une de ces vingtaines de camps de réfugiés en Allemagne? Pourquoi pas Bad Reichenhall, inscrit au dos d'une des photos de mon grand-père datant de cette époque et où devait donc se trouver un de ses amis? Comment s'y sont-ils rendus? Et plus tard, pourquoi ne sont-ils pas partis tous ensemble à Paris? Comment ont-ils reçu l'argent leur permettant de se rendre en France? Quelle somme cela représentait-il? Où ont-ils franchi la frontière avec le passeur? Ne reste que des faits bruts, un résumé aux repères imprécis.
Moi, j'adore ce passage parce que je pense que... moi, je l'ai lu avec beaucoup d'émotion parce que toutes ces questions que vous posez, je pense qu'à un moment ou un autre, quand on se retourne vers notre famille, c'est toutes les questions qu'on se pose sur notre famille et dont on n'a pas les réponses, auxquelles on n'a pas les réponses du tout. Et je trouve que c'est... Moi, ça m'a bouleversé hein, de lire cette chaîne infinie de... d'événements qu'on essaye de rabouter, mais dont au fait on n'a pas les éléments quoi. On ne pourra pas avoir la réponse. Et voilà, je voulais vous dire que j'ai été très bouleversé par la lecture du livre, mais ce passage m'a vraiment pris. Et puis il y a vos études, donc votre métier de correctrice, et c'est ça que moi j'ai apprécié aussi dans ce livre. Alors c'est votre précision du mot. Vous avez un plaisir des mots.
Oui, et c'est vrai que j'ai travaillé aussi le vocabulaire en réfléchissant à comment parler de la cuisine aussi. Parce que les goûts, c'est pas quelque chose de simple à restituer par les mots. Donc comment trouver des mots, comment trouver des subterfuges, passer peut-être par d'autres sens justement. Et donc j'ai pas mal travaillé ça dans mon écriture.
Alors on le retrouve hein, ce plaisir des mots, il y a un mot comme il s'y est. Ah, j'arrive pas à retrouver l'extrait dans le livre, mais je retrouvais des mots un petit peu précieux, un petit peu subtils, et tout d'un coup ils surgissent dans votre écriture. Ça donne une dimension à votre écriture. Enfin, en fait, un plaisir de lecteur, tout bonnement, que vous nous donnez. Vous êtes en résidence à la maison Julien Gracq. Vous travaillez sur quel projet?
Je travaille sur un projet toujours en lien avec l'histoire de ma famille pendant la guerre. Et là, je parle notamment d'un camp où mon père a été interné pendant la guerre, qui était en France, à Vittel, mais qui n'était pas un camp administré par Vichy, mais par les Allemands, parce que c'était en zone interdite. Et c'était un camp qui était censé être un camp d'échange de prisonniers.
Ben, je vais vous souhaiter une bonne résidence.
Merci beaucoup.
Et puis, on va faire une pause musicale.
Acreditar é não recomeçar jamais. E a vida foi em frente. Você simplesmente não viu o que ficou pra trás. Acreditar é não recomeçar. Simplesmente não viu o que ficou pra trás. Não sei se você me enganou, mas quando você tropeçou, não viu o tempo que passou. Não viu que ele me carregava e a saudade lhe entregava com a vada imensa dor. E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. Acredita, acredita, eu não recomeçar. Simplesmente não viu o que ficou. Tá, 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 acredita, acredita. É não recomeçar jamais. E a vida foi em frente. Você simplesmente não viu o que ficou. Tá, tá. Não sei se você me enganou, pois quando você tropeçou, não viu o tempo que passou. Não viu que ele me carregava e a saudade lhe entregava com a vaga imensa dor. E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. Acredita, acredita, e não recomeçar jamais. Se a vida foi em frente, você simplesmente não viu o que ficou pra trás. Que a vida foi, você simplesmente não viu o que ficou pra trás.
C'était Aurélien Merle qui chantait Acreditar. Vous êtes bien sur Radio G, vous écoutez Entre les Pages aujourd'hui. J'accueille Élise Goldberg, Camille Kouassi et Martin Page, tous trois en résidence à la maison Julien Gracq. Rebonjour Camille Kouassi.
Bonjour.
Rebonjour Martin Page.
Bonjour.
Camille Kouassi, vous êtes artiste plasticienne, vous travaillez la photo, la peinture, vous mélangez les techniques. Martin Page, notre première rencontre, c'était le 20 novembre 2019. Je crois que nous avions parlé des albums jeunesse Flora et Max. 6 ans ont passé, depuis vous avez publié beaucoup. Vraiment beaucoup. Romans, nouvelles, essais, poésie, jeune public. Vous utilisez même parfois un pseudo, qu'on ne révélera pas puisque vous regrettez de l'avoir utilisé, mais donc on le citera pas, comme ça, ça restera un pseudo. Tous les deux, vous êtes en résidence à la maison Julien Gracq, une résidence qui porte le nom de Titi Filus et qui est portée par la maison Julien Gracq et par le musée atelier de l'imprimerie de Nantes. C'est quoi le but de cette résidence, Camille, pour vous, c'est quoi?
Bien, c'est de mettre en résonance deux moyens d'expression, et aussi, je pense, de faire parler nos rages communes, parce que je pense qu'avec Martin on a quelque chose d'assez frontal dans notre travail, donc voilà.
Martin, pour vous, le regard sur cette il y a de la rage que vous allez installer dans cette résidence.
On l'a installée, je sais pas, peut-être qu'elle est aussi là, mais en tout cas oui, je me retrouve beaucoup dans ce que dit Camille. Il y a aussi l'idée de faire un livre, un objet qui n'a pas été fait avant, et de bousculer peut-être un peu, de proposer des thèmes, que ce soit par le dessin ou par les mots, qui je trouve n'ont pas assez de place, peut-être dans le livre d'art, dans la littérature. En tout cas, c'est de proposer quelque chose, ouais, de l'ordre de la rage et de l'inédit, en fait. Mmh.
Alors, puisque vous avez prononcé le mot, Camille, le mot de rage, ce qui caractérise votre travail, c'est d'une part la couleur, énormément de couleurs, et puis le masque, le cachet. Est-ce que je me trompe ?
Non, vous avez appuyé sur les bons boutons. Ouais. oui, en fait, c'est vrai que j'ai un rapport au dévoilement qui passe par une manière un peu détournée, notamment par les masques. Mmh. En fait, je suis quelqu'un qui a tendance à aller gratter sur des sujets qui sont pas forcément faciles au premier abord, et du coup le fait de passer par un masque me permet de prendre un peu les gens par la main et d'y aller d'une façon peut-être plus douce aussi, tout en allant un peu dans l'art, parce que c'est un peu quelque chose qui est important pour moi, en fait, de permettre aux gens d'aller briser des tabous à travers mon art, et pour moi le masque est un bon médium pour ça.
Alors, une de vos séries s'appelle Vulvarmure.
Oui.
C'est déjà lourd, hein.
Ouais. Hein. Du coup, ça, c'est une série que j'expose en ce moment à Nantes, et qui est une série en trois temps autour des violences sexuelles et des traumas vécus quand on a vécu ce genre de traumatisme, mais notamment. Qu'est-ce que c'est que de vivre ça dans sa chair? Comment ça s'imprègne dans le corps et dans la psyché? Et du coup, là, ce sont un peu des masques, mais qui passent à l'extension corporelle. C'est un peu l'étape d'après, qui permettent, en fait, de donner à voir un morcellement, en fait, qu'on peut vivre quand on a vécu ce genre de choses, mais de manière très frontale et colorée. Donc c'est pour que les gens ils n'aient pas trop le choix de regarder, de se confronter.
Alors, couleurs, les mains qui sont là, présentes, qui sont très 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 présentes, quoi. Enfin, c'est quand vous dites Fantella, moi j'ai pas vu votre travail en vrai. Je l'ai vu sur votre site. Hein, oui. J'ai essayé de comprendre de comprendre ce travail. Effectivement, on sort pas tellement indemne, quoi, de ce que vous nous proposez à voir, en fait, tant sur les photos qui sont effectivement très étranges que les dessins que je trouve, comme vous dites, il y a de la rage, quoi. On la sent, cette rage-là.
Ouais. Je pense que comment dire, je trouve que c'est un endroit qui est compliqué quand on crée, notamment quand on va aborder des sujets comme ça, qui sont pas anodins, c'est de rester sage dans son appréhension, parce qu'on peut tomber dans une... Il y a Audre Lorde qui disait que les artistes fallait qu'ils fassent des fleurs avec leur colère. C'est un peu mon... Je sais pas, c'est un peu mon... Quand je pense que... Quand je suis dans une colère trop brute, une rage trop brute, ben je me rappelle de ça. Voilà, donc c'est un peu... C'est marcher un peu sur un fil fragile, parce que c'est vrai que on peut vite tomber dans quelque chose aussi qui est peut-être trop violent. Et moi, c'est pas ça que j'ai envie de transmettre. Non, j'ai envie que les gens ils sortent de là renforcés, avec plus de robustesse peut-être.
Mmh. Non, ça reste on n'évite pas le sujet quand on regarde vos travaux. Ça reste délicat, ça reste suggéré, ça reste respectueux de la personne qui regarde. Ça me semble quelque chose. Enfin, moi, c'est ce que j'ai éprouvé.
D'accord.
Ça remue à l'intérieur, hein, quand même. Hein. Enfin, sans avoir les tenants et les aboutissants, ça remue à l'intérieur. Vous, Martin Page, la question de la ville, Ben, elle était dans votre roman « La disparition de Paris et sa renaissance en Afrique ». Là, il y avait de la ville, hein. Et il y avait beaucoup de choses d'ailleurs dans ce roman. Vous pouvez nous rappeler de quoi ça parlait?
Absolument pas, parce que c'est un roman que j'ai écrit il y a, je sais pas, 15 ans et tout ça, donc c'est un peu.
Il y a 15
fou.
Ans?
Mais je vais en fait faire une petite digression et un petit détour.
Oui.
Pour rebondir sur ce que disait Camille, et je me trouve vraiment totalement dans ce qu'elle dit. À la fois, ouais, la rage, l'aspect critique, social et politique. Et en même temps, je pense que on s'adresse à des gens qui sont comme nous, qui ont pu être blessés, ou même des gens différents de nous, mais aussi des gens qui ont besoin d'énergie, en fait. Moi, je peux pas être totalement du côté de la critique et de la négativité. Pourtant, je pense que c'est un exercice que j'aime bien, et c'est quelque chose, un exercice moral ou éthique que j'aime bien. Mais je peux pas être que de ce côté-là. Donc, je pense qu'on partage aussi, ouais, cette sensibilité aux personnes et dire qu'il faut on sait qu'il faut leur donner de l'énergie. C'est pour ça que je pense que l'humour est aussi important dans mon travail et peut-être aussi dans celui de Camille. Donc c'est et je me souviens, il y a une phrase pendant qu'on parlait vous parliez tout à l'heure, il y a une phrase d'un anthropologue qui s'appelle Eric Chauvier que j'aime bien et il disait on pense à partir du moment où on casse l'ambiance. Et je trouve ça super bien,
c'est réussi. Ça,
parce que dans casser l'ambiance, il y a un truc aussi assez joyeux finalement. Mmh. C'est pas uniquement de l'agressivité, il y a un peu de ça peut-être, mais aussi quelque chose de joyeux, d'irrévérencieux, de carnavalesque hein, peut-être, et ça me correspond bien. Mmh. Quant à votre question,
oui,
à votre question, la disparition de Paris, sa renaissance en Afrique, et c'est drôle parce que on m'a contacté, il va certainement y avoir un gros projet autour de ce livre. C'est drôle parce que c'est le livre qu'on écrit il y a longtemps et tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe. C'est l'histoire de quelqu'un qui, c'est l'histoire de quelqu'un qui essaie de rendre justice à quelqu'un qui est mort. Mmh. Et pour rendre justice, il décide de détruire quelque chose et de reconstruire quelque chose. Enfin, c'est un peu flou, mais voilà, c'est ça, c'est rendre justice au mort. Mmh.
C'est le vœu de la personne qui est morte, c'est de détruire et de transférer Paris.
Ouais.
Et il faut trouver une alternative. Mais dans ce roman, vous prenez des habits très particuliers. Alors je dis vous. Alors, c'est pas vous, ouais. Mais finalement, si, je crois que c'est vous. Vous prenez des habits très particuliers. Vous êtes conseiller du maire de Paris. Vous êtes conseiller en communication quasiment du maire de Paris dans ce roman-là.
Oui, c'est quelqu'un en fait qui s'est créé un métier qui lui permettait d'être un fantôme. C'est quelqu'un qui écrivait les discours du maire, qui écrivait des notes de synthèse, des notes techniques et tout ça. Et c'était une position sociale et professionnelle bien payée qui lui permettait de pas exprimer sa propre personnalité, ses désirs et tout ça. Et tout d'un coup, il y a cette rencontre avec cette femme en fait qui est victime d'un policier qui la frappe et cette femme va mourir. Avant de mourir, ouais, elle émet ce souhait en fait de détruire cette ville en fait. Mmh. Et évidemment, c'est pas à prendre au pied de la lettre.
Oh, au début, c'était le cas. Hein.
Ouais, ouais. Et en tout cas, la réalisation du livre, c'est pas ça. Et mais voilà, quand il y a une ville, c'est aussi un peu le thème de notre résidence. C'est autour de la ville. C'est-à-dire, je pense tous les deux, on aime beaucoup la ville, mais on voit à quel point aussi la ville est un lieu aussi de violence pour les plus fragiles, pour les malades, les précaires, les personnes racisées, les handicapés, les pauvres, enfin les enfants. C'est un lieu de violence et c'est en même temps un refuge pour les artistes, pour nous. Enfin, je pense qu'on a vécu ça, la ville comme un refuge, on en a besoin. Et on assiste en même temps à sa gentrification. Donc voilà, on a plein de pensées, d'expériences aussi paradoxales par rapport à la ville. Et ce livre sur Paris, donc ça met en scène ça. Et je pense que dans le livre qu'on fait avec Camille, ça incarne vraiment, vraiment ces enjeux, quoi.
Alors pour aller toujours rester dans votre travail, Martin Page. Vous avez écrit, il y a Non Binaire qui est sorti sur la question du genre. Il y a La Douceur de la Musculation. Il y a Au-delà de la pénétration sur la domination masculine, il y a Les animaux ne sont pas comestibles sur le véganisme. Est-ce que pour vous, l'écriture, c'est parler de ses convictions?
Je réfléchirai pas comme ça, ce n'est pas pour moi de parler. Pour moi, souvent, c'est essayer de résoudre des questions personnelles. Je ne dis pas que j'y arrive, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de cette recherche. Et c'est aussi... Je fais le constat que le monde, la société est insupportable. La société, c'est un état de guerre permanent pour beaucoup, beaucoup de gens. Et il est hors de question que de laisser ça dans l'ombre, en fait. Mmh. Il est hors de question de ne pas parler de la souffrance animale. Il est hors de question de ne pas parler du racisme dans non binaire, par exemple, des questions de genre. C'est la moindre chose. Et en plus, si on peut faire ça, ce qu'on disait tout à l'heure, avec des couleurs, avec de l'humour, avec de la joie, parce qu'on a l'impression que c'est que la critique très... Mais évidemment, il y a ça. Il y a un truc très destructeur, on va dire. Joyeusement destructeur, mais il s'agit aussi de proposer d'autres choses et de parler de la douceur nécessaire. C'est ça, l'idée.
Malgré tout, et effectivement, c'est pas nécessairement sombre, mais est-ce que ces livres-là que je viens de citer, est-ce qu'on peut parler de plaidoyer que vous rédigez ?
J'ai pas l'impression.
Moi, j'ai eu le sentiment.
Hein. Ah oui, mais ça, oui, c'est la magie aussi de la littérature, c'est chaque lecteur reçoit le livre et le réinterprète et tout ça. Pour mon livre sur la cause animale, plaidoyer, je sais pas, c'est pas une référence littéraire que j'ai de. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de monobloc en fait dans le plaidoyer qui va que dans un sens, alors qu'il me semble même dans mon livre sur les animaux, il s'agit pour moi aussi de comprendre ce qui fait que des gens continuent à manger des animaux, à pas être du côté du jugement en fait. Je pense que je suis assez radical, mais il s'agit pas pour moi de juger des individus là dans le cas des animaux ou des individus par exemple pour qui les questions de genre sont très éloignées. Il s'agit pas pour moi de juger, donc plaidoyer, je pense qu'il y a un truc très monolithique dans lequel je ne me reçois pas tout à fait, mais en tout cas, une certaine radicalité, en tout cas. Oui.
Mmh. Quand j'utilise le terme plaidoyer, c'est parce que dans un plaidoyer, pour moi, on développe une argumentation, ouais. Point par point, brique par brique, non pas tant pour convaincre que pour défendre.
Ah,
c'est pas tout à fait. Pour moi, ce serait pas tout à fait la même chose.
D'accord.
Et quand j'ai lu, par exemple, Non binaire, qui est en plus un recueil de poésie, moi j'ai trouvé ça. J'ai trouvé le recueil passionnant.
D'accord.
Dans la démarche, dans la mécanique intellectuelle qu'il met en œuvre et qu'il nous amène nous à réfléchir. Voilà, c'est en ce sens que j'utilise le terme plaidoyer.
Oui, je comprends mieux. Ouais, je vois ce que vous voulez dire plaidoyer. Je pense que j'avais pas mon dictionnaire pas à jour. Non, mais c'est intéressant. Mais ouais, il y a cette idée en tout cas, ouais, c'est de présenter des choses qui sont importantes pour moi et d'ouvrir le monde en fait. Là, on est dans une maison, c'est toujours pousser les murs de la maison pour que ça accueille le plus de monde possible. Et donc je pense que j'utilise aussi des outils de la séduction en fait. L'art littéraire, c'est aussi un art de la séduction, et c'est extrêmement important. Les écrivains qui ont compté pour moi, c'est des gens qui étaient aussi dans la séduction littéraire. Moi, je suis très très méfiant de la séduction en fait dans les rapports interhumains, mais je trouve qu'en littérature, c'est un outil qu'on peut utiliser. On peut l'utiliser tout en désamorçant, je pense, les effets négatifs. Il s'agit pas de créer des convertis justement. Il s'agit pas de mais il s'agit de montrer l'humour, la beauté, la joie dans des thèmes qui sont peu connus et peu reconnus comme les animaux, la question du genre et tout ça. Et en tout cas c'est un peu ma tentative quoi.
Eh ben moi je vous propose qu'on fasse déjà une pause musicale et puis on va rentrer dans le vif du sujet de la résidence à laquelle vous participez.
Chasing after money, nada que hacer con el dolor. What of cruelty and lies? Even the daytime, I have nightmares. What destiny for our child? There are no bad ends to protect them from ego. I had dreams.
now I leave day by day. I walk on a railway between the money and the vibes. Far from being rich, but closer to real things, I keep on a praying. I have nothing to invite. I prefer to remind myself. Cause you want to rub them all of the time on hers. To fly your ego bouquets. Better love the voice that cannot be suppressed. Let us love each other. Let's shake hands without making differences. Let's be together. What of cruelty and lies, even the daytime I have nightmares. What destiny for our child? There are no bad ends to protect them from ego. What of cruelty and lies, even the daytime I have nightmares. What destiny for our child? There are no bad ends to protect them from ego.
C'était Cégibette qui chantait Ego, un titre que l'on a déjà passé, une jeune artiste prometteuse qui fait partie de l'équipe Espoir du Chabada, c'est vous dire. Vous écoutez Entre les Pages, et ce n'est que sur Radio G, et aujourd'hui j'accueille Élise Goldberg pour son roman Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carte farcie, quel titre. Martin Page et Camille Coissy pour leur résidence commune à la Maison Julien Gracq, résidence qui doit les conduire à réaliser un livre d'art sur la ville. Camille et Martin, est-ce que vous vous connaissiez avant d'avoir été accepté pour cette résidence? Camille?
Alors non, pas du tout. C'est un geste très impulsif de ma part parce que quand on est artiste, plasticien, on est drogué aux appels à projets, machin. Donc on fait beaucoup de veille. Et du coup, j'ai vu passer cet appel à projet de la maison Julien Gracq et du musée de l'imprimerie de Nantes. Et je me suis dit, bah ça a l'air trop chouette, j'ai trop envie de participer. Il y avait pas beaucoup de temps pour monter un dossier et j'ai réfléchi, je me suis posé. Et là dans mon cerveau, il y a le nom de Martin Page qui a popé. En plus, je savais qu'il était à Nantes, donc j'ai envoyé un message sur Instagram et on s'est rencontrés et voilà, c'est un matché. J'étais un peu flippée, mais je l'ai fait et c'était chouette.
On va parler dinosaures. En fait, on a vu qu'on avait des points communs, dont les dinosaures. Donc,
Ouais, mais ça, c'est fou quand même. J'avais un petit badge dinosaure et toi aussi.
Moi, j'ai un badge dinosaure aussi sur mon manteau. J'avais pas ce manteau-là, mais j'ai un badge dinosaure.
Un badge dinosaure. Ouais. C'est quoi ce truc de dinosaure, Martin Page?
Je sais pas. Je sais pas à quoi ça tient. C'est un truc, je pense, qui est lié à l'enfance et aussi à la mort, à la disparition. Enfin, je pense que c'est une thématique qui est extrêmement riche et forte, quoi, politiquement, les dinosaures.
Quand on a un message Instagram, on a une personne qui s'appelle Camille Coissy qui vous dit bonjour Martin, je suis Camille Coissy, je suis plasticienne, je réponds à un appel à projet sur la ville, etc., etc. Comment on réagit, Martin?
C'est super touchant et flatteur et moi j'adore avoir des nouvelles. C'est des gens. Autant les rapports sociaux dans la vie réelle, je trouve ça vraiment fatigant et compliqué. Mais par exemple dans des soirées, tout ça. Parce que pour moi, l'enfer sur terre, c'est une fête ou une soirée. Donc pour moi, les messages par Instagram, c'est la crème de la crème. Quoi. C'est vraiment ce que je préfère. Non, c'est vachement bien. Et donc, j'étais super touché. Donc ensuite, je suis allé voir sur son Instagram et sur son site internet. Parce que c'est vrai que ça peut être embarrassant, en fait. Si on a un message de quelqu'un dont on n'aime pas trop le travail et tout. J'aime le travail. C'était super cool. Mais ouais, ça s'est fait tellement rapidement. Parce que tu m'as contacté, on a pris un café quelques jours plus tard. On a fait le projet. Un mois plus tard, un mois et demi plus tard, on se retrouve en résidence et tout ça, ça a été vraiment incroyable, quoi. C'était
Ça s'enchaîne jamais. Ouais, parce que il fallait présenter le projet à deux.
Tout à fait, c'est ça. Ouais. Donc, il fallait déjà qu'on, en parlant, je trouve qu'on a vite réussi à comprendre qu'on avait sur pas mal de choses une vision qui pouvait se recouper, je pense. Enfin, et du coup, quand on a monté le dossier, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Martin, il m'a transmis des textes, qui soient des références ou alors des textes qu'il avait écrits autour de la ville, justement. Et du coup, moi, j'ai fait quelques dessins pour le dossier en m'inspirant, enfin, après avoir digéré un peu la langue et les thématiques, la façon dont Martin traitait cette thématique-là, en fait, et que je trouvais très intéressante. Et du coup, c'est comme ça que le dossier s'est monté. Et voilà. Ouais,
dit-elle légèrement. Voilà, c'est comme ça que le montage.
Non, mais parce que c'est vrai que c'est pas facile de monter des dossiers parfois, parce que voilà, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, là, je sais pas, il y avait un truc chouette parce que déjà, c'était en duo et ça change de devoir défendre sa pratique artistique en solo et tout. Là, ça a vraiment permis de sortir un peu de ma routine à toujours faire mes petits dossiers. Ouais. Et ça, c'était super chouette. Et c'est pour ça que je trouvais ça un peu plus léger, en fait, de travailler en duo comme ça. Je trouvais ça chouette.
Ouais, je suis d'accord.
Mais qu'est-ce qu'il y avait, puisque c'est vous qui déclenchez, Camille, qu'est-ce qu'il y avait de séduisant dans cet appel à projet? Qu'est-ce qui, tout d'un coup, parce que il est bizarre, livre d'art sur la ville, enfin, c'est un appel à projet extrêmement bizarre, Maison Julien Gracq, des auteurs très sérieux, tout ça, qu'est-ce qui est séduisant? Qu'est-ce qui vous fait dire, je tenterai le coup?
Bah oui, c'est vrai, je peux comprendre ce que vous dites sur le côté un peu atypique du truc. Mais justement, c'est ce qui m'a plu. Après, j'ai eu un peu peur au départ. Je me suis dit, ouais, est-ce que j'ai ma place pour postuler à ce type d'appel à projet? Et en fait, je me suis dit que la thématique de la ville, c'était extrêmement riche. Franchement, je me suis dit, ouais, visuellement, ça a convoqué plein de choses. Je trouvais qu'il y avait énormément de choses à dire. Donc, c'est aussi ça qui m'a plu. Et j'aimais aussi le rapport texte-image, parce que je suis quelqu'un qui est sensible aussi à la littérature, aux mots. Donc en fait, je trouvais ça chouette d'avoir l'occasion de mettre mon travail en résonance avec le travail d'un auteur ou d'une autrice, quoi. Voilà.
En plus, enfin, dans votre travail, l'urbain n'est pas présent.
Non, c'est vrai. C'est vrai. Et bien que je suis une fille de la ville, j'ai grandi en ville. Avec tout ce que ça implique, et en fait je trouvais que ça m'a tout de suite parlé, je sais pas comment vous dire, des fois on a des petites révélations comme ça et je me suis lancée.
Vous, Martin, la ville, ça vous parle? Quand on a parlé du roman tout à l'heure, je vous ai identifié au personnage principal, personnage qui déclare aimer Paris, aimer la ville. C'est bien vrai, hein?
Oui, d'autant plus que mon parcours, c'est j'ai passé ma jeunesse en fait à la périphérie de la grande ville. Je viens de la banlieue sud de Paris, l'Essonne, et donc c'est proche, mais en fait c'est extrêmement loin en pensée et en praticité quand on est enfant ou adolescent, et ça coûte cher en fait d'aller à Paris. Et donc j'ai fini par vivre à Paris, et ensuite on est parti parce que c'est cher. Et on est arrivé à Nantes, qui est une ville chère aussi, hein. C'est un problème récurrent. C'est très très actuel. Mais en tout cas, ouais, j'avais ce désir de ville très très fort quand j'étais jeune. Alors ça n'efface pas tous les problèmes, toute la violence que peut représenter la ville, mais c'est aussi un havre, un asile, une ressource en fait pour beaucoup de gens. Et ça, je voulais en parler. Ensuite, ce qui était ce qui est séduisant dans les projets de résidence, c'est que bon, j'ai plutôt des bons rapports avec mes éditeurs et mes éditrices. Cette phrase demanderait des notes en bas de page. Mais mais en fait, là, ce qui est génial, c'est qu'on fait un livre et il n'y a pas d'éditeur et d'éditrice. À part, il y a le compagnon de Camille qui est là, il y a ma compagne aussi qui est là, qui donne. On a des avis extérieurs quand même. Je pense que c'est hyper important d'avoir des avis extérieurs, mais en tout cas, on fait ce qu'on veut. Et on a au niveau des dessins de Camille, au niveau de mes textes et tout ça, on peut être vénère, on peut être. C'est chouette qu'on ait une liberté totale. Et Et donc, c'est très plaisant.
Mmh. Alors, il y a Camille a commencé à parler de rage. Donc, ça va rester le gimmick de l'émission, de la rage. En fait, cette résidence, elle arrive à un étrange moment. Une actualité et puis une circonstance. L'actualité, c'est ben, les élections municipales. Hein. Est-ce que dans votre travail, c'est un paramètre qui rentre? Est-ce que ça infuse? Est-ce que c'est un élément qui entre en ligne de compte? Surtout qu'on est à Nantes, ou enfin bon, il y a plein d'éléments.
Alors, il faut qu'on se fâche avec nos financeurs. Mais non, mais c'est compliqué. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est compliqué en tant que auteur artiste que la culture dépend de l'argent public ou privé. Ça veut dire qu'elle dépend de gens qui à un moment peuvent couper les robinets en fait. Et c'est compliqué par rapport à l'autonomie et la liberté des artistes. Et c'est un truc, je pense, dont on parle pas assez, en fait. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire, jusqu'où on peut aller. Ensuite, les municipales, moi, je suis pas vraiment l'actualité politique à Nantes. J'ai l'impression que c'est une ville qui restera toujours à gauche, même si ce terme gauche, il faut savoir ce qu'on met dedans. Ensuite, je suis plutôt pessimiste hein, sur l'état et l'avenir de la gauche. Et l'humanité et tout ça, moi je trouve c'est, on va vers la catastrophe et je suis effaré en fait par la pauvreté en fait du paysage politique, évidemment à l'extrême droite, à la droite, mais ce qui me touche plus c'est la pauvreté aussi du paysage et des instances et des personnages politiques à gauche. Mmh. Voilà.
Camille, cette rage que vous exprimez sur un segment particulier qui n'est pas le segment de la ville, etc., mais qui est sur un segment particulier. Mais quand on commence à réfléchir sur un projet où on doit travailler sur cette notion de ville pour un livre qui va parler de ville, est-ce que c'est un élément auquel vous avez pensé ou pas du tout, d'ailleurs, tout bonnement?
Alors, les municipales, en soi, j'y ai pas pensé consciemment. Après, je suis quelqu'un de politisé, c'est-à-dire que du coup, j'attends pas les municipales pour avoir cette vigilance et cette vue critique du monde. Après, je pense que moi, Martin, quand tu me dis Nantes, ça restera à gauche et tout, moi, j'ai toujours je suis fébrile en vrai. Je sais pas. Enfin, quand on voit par exemple les coupes budgétaires, alors que Nantes, c'était un peu, enfin. En tout cas, pour beaucoup de gens, c'était une ville de culture qui mettait la culture en avant. Bah, en fait, c'est quelque chose que beaucoup de gens, je pense, n'ont pas forcément vu venir, en tout cas.
Pour la région.
Pour la région, mmh. C'est ça. Des fois, je me dis, mais Nantes, si on reste sur cette lancée-là au niveau du budget, bah, en fait, la ville, elle va vraiment changer. Mmh. On va le sentir, en fait, dans notre ville, au quotidien, etc., vu que les budgets ne sont plus à la hauteur. Donc, ouais, moi je vous dirais que les municipales, c'est pas ça qui était dans ma ligne de mire, c'est plus large. Je dirais que c'est une appréhension des choses qui est plus large. Et je pense que pour moi, ce projet, c'est aussi l'occasion de développer d'autres imaginaires, en fait. C'est-à-dire que ça, pour moi, la poésie, c'est un langage qui infuse. Enfin, moi, c'est comme ça que je vis la poésie. C'est quelque chose que je lis, j'y reviens. Enfin, je pense que ces formes-là, les images aussi, là c'est beaucoup de dessins que je vais faire, permettent aux gens de faire semer des imaginaires qui seront peut-être vertueux ou émancipateurs. Mmh.
Voilà. Alors il nous reste peu de temps, et pourtant je vais poser une question qui va nécessiter 18 heures pour formuler la réponse. 2025, c'était le 40e anniversaire de la publication de La forme d'une ville de Julien Gracq. Est-ce que, alors je vois Camille qui fait des gros yeux, vous l'avez lu ce livre-là, Martin?
Alors, je l'ai tenu en main. Est-ce que ça compte?
Non, oui. Pardon. Oui, c'est bon.
C'est par, je l'ai lu par respiration. Oui. Non, j'ai pas lu, mais je connais mal l'œuvre de Gracq. J'ai lu son livre sur les prix littéraires.
Mmh. Oui.
La littérature.
À l'estomac.
À l'estomac.
Voilà.
Et c'est le seul livre de Gracq que j'ai lu, mais c'est justement l'occasion de découvrir son travail.
Eh ben, Je vais vous remercier tous les deux d'avoir répondu à ces questions. On va commencer à commencer, je vais dire, et je bégaye parce que je me mélange dans mes fiches, mais ça c'est pas grave. On va commencer à imaginer la fin de cette émission. Margot, est-ce que tu as des informations à donner? Alors je vais te donner 1 minute 17. Allez, en avant. Mais tu parles bien devant le micro, hein, fais un effort.
Donc les activités à la maison Julien Gracq, donc le 23 janvier, on fait notre premier banquet littéraire avec Élise Goldberg, mais il est presque complet. Donc je vous invite à venir au second événement de l'année.
Il y aura de la carpe farcie ?
Non. Ça sera le frigo d'une grand-mère avec les grains de sel ashkenaz d'Élise Goldberg pour le menu. Mais donc l'événement suivant, sera le 7 février, donc la première journée, le premier samedi à la maison de l'année, avec du coup une thématique autour des littératures indiennes et palestiniennes, minorités et identités, donc avec deux autrices indiennes, Jatita Kerketa, qui sera en résidence à la maison Julien Gracq, dans le cadre d'un partenariat avec la Villa Swagatam, et Mina Kandasamy, qui est elle en résidence avec la Maison de la Poésie de Nantes, et Karim Katan, qui lui est en résidence à la maison Julien Gracq, soutenu par le CNL, pour un premier mois, puis ensuite à Nantes aussi, à la Maison de la Poésie. À la suite de cette rencontre, on invite Tiphaine Le Gall, qui était en résidence au mois de mai et juin l'année dernière, qui a donc terminé son roman à la Maison Gracq, et qui en fera une présentation lors de ce samedi, et on terminera du coup par une lecture poétique avec donc Sophie Coiffier, qui fera du coup son deuxième temps de résidence poésie autour de de textes de son dernier ouvrage qui sort aujourd'hui, Précis d'évaporation, et elle a choisi d'inviter avec elle donc Chloé Delhomme, qui lira aussi des textes poétiques d'un livre à sortir au mois de mars. Donc une belle journée à venir pour commencer l'année.
Eh bien, merci pour ces informations. Moi, je vais rappeler quelques événements quand même. Vous rappelez les prochaines nuits de la lecture du 21 au 26 janvier prochain. La ville d'Angers a édité un programme et partout ailleurs en Anjou, il y a de nombreuses propositions. À vous de chercher, de faire un effort en fait. On va pas tout vous mâcher non plus le travail. Vous avez rendez-vous malgré tout le samedi 24 janvier à 10h30 à la bibliothèque de Rochefort, pour assister à une lecture de la poétesse franco-allemande Odile Kennel, et c'est organisé par la Miel 49 et par Poésie Cause Toujours. Ça sera sans doute une très belle matinée parce que les propositions de ces deux structures sont toujours vraiment passionnantes. Et puis, bien évidemment, vous vous attristerez de la fermeture prochaine de la librairie Contact à Angers. Que dire si ce n'est que désolant. Au cours de l'émission, vous avez entendu Aurélien Merle qui a chanté Accréditar et Cégibette qui a chanté Ego. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 28 janvier à 17h. On va se plonger dans la littérature de genre avec Pierre Léauté, que j'ai invité. Pierre Léauté a publié une vingtaine de livres. Il surfe entre la SF, le polar et le fantastique. Et comme c'est un amoureux des Pyrénées, c'est un homme bien évidemment hautement fréquentable. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis le magazine Topette. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant,
in 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.
someone sagaciously nodding his head said that was the pin on the whip. The beaver went silently galumphing about and seeing the butcher so shy. And even the baker simply stopped, made an effort.